Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonjour. Le shutdown est-il parti pour durer? C'est la question qui se pose aujourd'hui aux États-Unis au lendemain d'annonces faites par Donald Trump pour essayer de trouver une sortie de crise. Le président américain a tenté hier de proposer des concessions aux démocrates qui ont été immédiatement rejetées. Donald Trump va-t-il être contraint à être moins intransigeant? Élément de réponse dans ce journal avec François Durpère, universitaire et historien spécialiste des États-Unis. Manifestation sous haute sécurité annoncée en Grèce. Cet après-midi, le centre d'Athènes est fermé. Quelques 2000 policiers sont mobilisés. L'objet du rassemblement, c'est de dénoncer le nouveau nom de la Macédoine. Qu'est-ce qui pose donc précisément problème? Nous aurons les explications sur place d'Angélique Kourounis. Et puis en France, l'association altermondialiste ATTAC dénonce dans sa dernière étude le comportement des entreprises françaises du CAC 40 sur les 8 dernières années. Les bénéfices ont augmenté de 10%, les impôts ont baissé de 6%. Laura Dulieu nous en dira plus. Comment sortir de cette impasse américaine du shutdown? Le président américain a proposé hier un marché aux démocrates. Vous votez le financement du mur avec le Mexique et en échange, j'offre un statut temporaire et des extensions de permis de séjour à 1 million de migrants. La proposition est déjà rejetée par les démocrates, notamment par Nancy Pelosi, chef de la majorité à la Chambre des représentants. Est-ce que néanmoins ces tentatives de concession faites par Donald Trump représentent un aveu de faiblesse pour un chef de l'État qui s'est toujours voulu intransigeant? Élément de réponse avec François Durpère, universitaire et historien spécialiste des États-Unis.
Pour Donald Trump, ce qui est intéressant, c'est de sortir par le haut, de ne pas perdre la face. Et effectivement, le danger de cette proposition et de ce discours à la Maison-Blanche, donc c'est extrêmement solennel, les Américains voient que Donald Trump cherche à négocier. Mais en même temps, ça peut se retourner contre les démocrates, parce que Donald Trump montre aux électeurs américains, et ce qui intéresse Donald Trump, c'est les électeurs de 2020, l'élection qui a déjà commencé dans toutes les têtes, eh bien qu'il fait cet effort vers les démocrates, et donc la responsabilité du shutdown eh bien, pourrait passer du camp républicain au camp démocrate. En tout cas, ce que tout le monde a compris, c'est qu'il s'agissait d'une issue, vous savez, ce mot, ça signifie enjeu, d'une issue de l'élection de 2020. Ce shutdown, ça va au-delà de la question de blocage ou déblocage du gouvernement. D'ailleurs, il se pourrait que la montagne accouche d'autre chose d'une souris, c'est-à-dire que le blocage accouche d'autre chose qu'un déblocage, puisque Donald Trump l'a dit, eh bien, ça pourrait déboucher sur une refonte profonde de l'immigration, et pas seulement sur un texte de circonstance pour sortir de la crise.
Propos recueillis par Benoît Bouscarel. Voilà qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux habitants de la ville de Londonderry en Irlande du Nord. Hier, une voiture a explosé devant un tribunal. Il pourrait s'agir d'un attentat terroriste, selon la police. Alors l'incident n'a fait aucune victime, mais dans le passé, cette ville a beaucoup souffert pendant la période des troubles où républicains nationalistes et loyalistes unionistes se sont affrontés. Et l'affaire ravive donc aujourd'hui quelques angoisses. À Londres, les précisions de Marina Daras.
À 10 jours des commémorations du Bloody Sunday, Londonderry revit une scène bien trop familière. Hier soir, vers 21h, la police évacuait la rue de Bishop Street ainsi que tous les commerces alentours après l'explosion d'une voiture que les autorités soupçonnent d'avoir été piégée. Mais si la police reste prudente, les responsables politiques, eux, n'ont pas hésité à parler d'actes terroristes. L'ancienne dirigeante de la province, Arlene Foster, leader du DUP, parti ultra-conservateur nord-irlandais, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la République d'Irlande, Simon Coveney, ont très vite condamné une attaque terroriste à la voiture piégée. Les véhicules piégés ont été la marque des affrontements entre les unionistes et républicains lors des 3 décennies de troubles qui ont pris fin en grande partie grâce aux accords de paix du Vendredi Saint. Alors que l'Irlande du Nord n'a toujours pas retrouvé de gouvernement depuis la chute de sa coalition en janvier 2017, la possibilité de voir le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes post-Brexit fait craindre la résurgence d'un conflit sanglant que beaucoup pensaient enterrer.
En Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras joue une nouvelle fois un va-tout politique. Il veut faire adopter coûte que coûte l'accord de Prespes qui réglera une fois pour toutes la question du nom du pays voisin, la Macédoine, mettant fin ainsi à presque 3 décennies de querelles politico-sémantiques qui empoisonnent la vie de la région. Mais une grande manifestation d'opposants est organisée aujourd'hui à Athènes et l'on craint des débordements. Sur place, Angélique Kourounis.
Contre-manifestation des anti-autoritaires, centre-ville bouclé depuis l'aube, 2000 policiers mobilisés, 300 bus venus des quatre coins du pays. Cette énième manifestation des opposants au nouveau nom de la Macédoine slave mobilise à nouveau les Grecs. Cette fois-ci, selon les organisateurs, elle risque d'être massive. Le Premier ministre Alexis Tsipras ayant décidé de faire passer la ratification du traité de Prespes qui rebaptise la République de Macédoine en République de Macédoine du Nord d'ici la fin de la semaine. Après, a-t-il indiqué que tous les partis se soient exprimés sur la question à la voulie grecque. Grande première jamais vue dans les annales, le texte de l'accord de Prespes signé en juin dernier par les deux premiers ministres d'Athènes et Skopje est publié in extenso dans la presse afin en souligner les services du premier ministre que les Grecs puissent se faire eux-mêmes sans intermédiaire une réelle idée de son contenu. Cet accord a déjà été signé par les Nord-Macédoniens, mais une grande partie des Grecs, 70% selon un sondage, estime que l'utilisation du mot Macédoine ouvre des possibilités dans le futur de revendications territoriales sur leur propre province de Macédoine, limitrophe du pays voisin. L'ensemble des partis d'opposition, néo-nazis et conservateurs libéraux en tête, seront présents à cette manifestation de cet après-midi qui doit, selon les organisateurs, réunir 500 000 personnes devant le Parlement pour faire pression sur les députés. Rien n'est moins sûr. Depuis que l'affaire macédonienne a éclaté, les manifestations vont en décroissant, mais en revanche, elles sont de plus en plus violentes. Certains députés libéraux et socialistes qui ont décidé de signer l'accord à titre personnel ont reçu des menaces de mort sur leur portable et leurs portraits en tant que traîtres ont été affichés dans certaines villes du nord du pays.
Angélique Kourounis. En France, le 10e samedi d'action des Gilets jaunes a rassemblé à quelque 84 000 personnes hier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est une mobilisation globalement identique à celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, une tribune écrite par un collectif de Gilets jaunes citoyens, c'est ainsi qu'il se présente, dénonce les violences commises par d'autres Gilets jaunes, notamment contre des journalistes. Le texte appelle, je cite, à faire le ménage dans ce mouvement de protestation et à mener des revendications dans le respect de l'ordre public. Un projet de loi pour taxer les GAFA sera présenté en Conseil des ministres d'ici à fin février. C'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui l'annonce aujourd'hui dans le journal du dimanche. Selon lui, cette taxe touchera toutes les entreprises proposant un service numérique représentant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros au niveau mondial et 25 millions d'euros en France. Cela devrait rapporter environ 500 millions d'euros. La France ne va donc pas attendre de consensus européen sur le sujet pour agir. Cependant, Bruno Le Maire ne renonce pas à convaincre ses partenaires, il espère un accord pour la fin mars. Les entreprises françaises du CAC 40 sont fortement pointées du doigt par Attac. Dans sa dernière étude, l'association altermondialiste dénonce un impact désastreux pour la société et la planète. Entre 2010 et 2017, dit-elle, les impôts versés par les entreprises du CAC 40 ont baissé de plus de 6%, alors que les bénéfices cumulés ont dans le même temps augmenté de près de 10% en valeur absolue. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce possible?
Grâce principalement à l'optimisation fiscale. Les entreprises du CAC 40 ont de nombreuses filiales à l'étranger, plus de 16 000 selon le rapport. Et selon son co-auteur Dominique Pillon, également porte-parole d'Attac, les réponses apportées par les pouvoirs publics sont clairement insuffisantes. Comme par exemple, vous en parliez Ilan, la proposition faite par Bruno Le Maire pour taxer les géants du numérique.
La taxation qui est proposée est faible. D'ailleurs, il est indiqué qu'elle rapportera 500 millions d'euros, ce qui est dérisoire face au chiffre d'affaires que font ces entreprises sur le sol français. Il y a eu en France une loi qui s'appelle la loi antifraude qui a été votée à la fin de l'année dernière. Mais on s'aperçoit que ces dispositifs sont totalement insuffisants et que beaucoup de mesures proposées par les pouvoirs publics sont des mesures en trompe-l'œil qui ne s'attaquent pas à la racine de l'évasion fiscale.
Autres aspects pointés par le rapport, les dividendes versés aux actionnaires augmentent tandis que les effectifs en France, eux, chutent de 20% entre 2010 et 2017, sans compter l'impact écologique de ces entreprises.
Nous constatons que les multinationales du CAC 40 ont continué à augmenter globalement leurs émissions de gaz à effet de serre. 22 sur 40 d'entre elles reconnaissent cette hausse des émissions de CO2.
Ce qui donne, selon Attac, une grande injustice fiscale et écologique. L'association propose donc une fiscalité carbone beaucoup plus dissuasive sur les sites industriels polluants, un plafonnement des écarts de salaire et une obligation de publier les avoirs des entreprises dans les paradis fiscaux pour pouvoir les taxer.
Merci à vous Laura Dulieu. 12h39 sur France Culture, tout de suite c'est la face cachée du globe avec vous Nadine Epstein. Bonjour Nadine.
Bonjour. SOS pour 345 000 personnes burundaises réfugiées en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Elles vivent dans l'indigence, abandonnées du monde. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a chiffré à 296 millions de dollars l'aide nécessaire pour cette crise que le HCR qualifie de l'une des plus négligées et des plus sous-financées du globe. Rio de Janeiro, première capitale mondiale de l'architecture. En 2020, la ville brésilienne choisie par l'UNESCO inaugurera un nouveau rendez-vous international qui vise à créer des synergies nouvelles entre culture et architecture dans un monde de plus en plus urbain dans lequel les villes sont des plaques tournantes pour les idées, le commerce, la culture, la science et le développement social notamment. Mardi, à Genève, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va examiner la situation du Vietnam. Des défenseurs des libertés exilés de force par Hanoï vont se déplacer en Suisse pour raconter comment le pouvoir communiste réprime sévèrement tout citoyen qui réclame plus de droits. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la France et le Vietnam ont renforcé leur partenariat stratégique, culturel, éducatif, économique. Nos relations bilatérales vont encore se solidifier cette année avec le voyage du président de la République en Asie du Sud-Est. Pour autant, la France comme le Vietnam restent discrets sur leurs échanges. La visite du Premier ministre Édouard Philippe en novembre 2018 dans la capitale vietnamienne est passée quasi inaperçue, tout comme la venue à Paris de dirigeants vietnamien. Écoutons Jade Dussard de la CAT.
Le Vietnam est dans l'ombre entre guillemets de la Chine, qui est un pays qui concentre énormément de couverture médiatique sur l'Asie. Les Français savent peu de choses du Vietnam. C'est toujours un régime très autoritaire. On a donc le même parti au pouvoir, le Parti communiste vietnamien, depuis 76 ans. Aucune presse libre, aucun média indépendant. C'est extrêmement fermé, à l'image de la Chine. En France, les gens ne connaissent du Vietnam que, en gros, la baie d'Along, les beaux paysages de cartes postales, c'est donc destination touristique, et puis tout ce qui a trait à la nourriture vietnamienne.
Comment êtes-vous au courant de ce qui se passe au Vietnam ?
Alors, on est en contact avec des familles en fait, de défenseurs, d'activistes qui sont actuellement emprisonnés, qui nous font état en fait, des conditions dans lesquelles ils sont détenus. Concrètement, ils sont criminalisés, en fait, les activités pacifiques qu'ils mènent sont criminalisées par des lois arbitraires aux formulations vagues. Donc concrètement, dès qu'ils se rassemblent en soutien à un prisonnier politique qui va être condamné autour du tribunal, les défenseurs sont tabassés par des policiers en civil ou en uniforme, arrêtés, il y a vraiment des arrestations de masse. En fait, ils sont traités comme des ennemis de l'État, si vous voulez. Donc on va appliquer des lois liées à la sécurité nationale à des activités qui sont totalement pacifiques, normal en fait, partager quelque chose sur Facebook, d'écrire un article sur son blog, de se rassembler dans la rue. Toutes ces activités-là sont fortement criminalisées, ce qui aboutit à la condamnation de ces défenseurs à de longues peines de prison.
Aujourd'hui, la CAT estime qu'il y a au moins 100 personnes qui sont détenues pour avoir réclamé un peu plus de liberté.
Absolument. Par exemple, la militante Tratinga, qui est une défenseure des travailleurs migrants, et par ailleurs aussi des droits des femmes, qui a été emprisonnée en 2017, condamnée à 9 ans de prison, seulement pour avoir tenu un blog. Actuellement, elle est emprisonnée à plus de 1000 km de sa famille, de ses deux jeunes enfants. C'est une tactique qui est très souvent utilisée par le Vietnam, de transférer les défenseurs prisonniers dans des prisons très loin de leur domicile. Donc on a vraiment une volonté de les briser moralement et puis par ailleurs avec des mauvais traitements et même des cas de torture en prison. On avait saisi les autorités françaises sur le cas de Menam, qui est une blogueuse de son vrai nom Nguyen Ngoc Nuc Quynh, qui est une blogueuse vietnamienne au profil un petit peu similaire à celui de Nga dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a été libérée mais grâce à l'appui des États-Unis, elle, c'était en octobre dernier. C'est une nouvelle tactique qu'on pourrait qualifier de liberté contre l'exil. Ça a été le cas pour Menam. On a eu cette année aussi, enfin en 2018, l'avocat Nguyen Van Dai, un avocat des droits humains, qui a été libéré et envoyé directement en Allemagne. Il n'y a pas eu d'expulsion vers la France. Par contre, il y a un défenseur qui avait la double nationalité franco-vietnamienne, qui s'appelle Pham Minh Hoang. Le Vietnam lui a retiré, c'était en 2017, lui a retiré sa nationalité vietnamienne pour pouvoir l'expulser en fait vers la France. On a notamment un accord de coopération juridique qui a été signé en mars dernier lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste vietnamien en France. Nguyen Phu Trong, ils ont signé un accord de coopération juridique entre les ministères de la justice français et vietnamien afin de promouvoir l'état de droit au Vietnam. Donc on enjoint notamment la France à utiliser cet accord pour réaffirmer la primauté du respect des droits humains dans l'achèvement d'un état de droit.
Mmh. Merci à vous Nadine Epstein. La face cachée du globe est à retrouver bien sûr sur franceculture.fr. Le ciel du jour est globalement très gris avec des risques d'averses dans le centre du pays et du côté des Pyrénées. Il devrait en revanche y avoir des éclaircies sur la côte méditerranéenne et la côte atlantique. Cet après-midi, les températures partent de moins 1 dans la Meuse. Elles montent jusqu'à 8 degrés en Gironde. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseau. Elle a été réalisée à la technique par Jean Frédérix.